Voici le message de vie. Un message apporté par Alain Pellissier, pasteur de l'Église réformée de France. Pour introduire ce message de vie, nous ferons une lecture dans la Bible, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie. De même, nous croyons aussi que Dieu ramènera à la vie, avec Jésus, ceux qui seront morts en croyant en lui. Voici, en effet, ce que nous déclarons, d'après un enseignement du Seigneur. Nous, qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ reviendront à la vie en premier lieu. Ensuite, nous qui serons encore vivants à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Deuxième lecture, toujours dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 9 à 11. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Christ est mort pour nous, afin que nous vivions avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà.
Depuis que l'être humain existe, il a eu le souci de ses morts. Il a eu souci du devenir de ses morts. Il s'est posé des questions sur ce qui se passait après le grand départ. Chaque religion a apporté ses réponses. Et aujourd'hui, alors que notre société semble se détacher de plus en plus de la pratique religieuse, le même souci, les mêmes questions, le même besoin d'espérance demeure. Et je ne pense pas que ce soit seulement pour ne pas être enterré comme des chiens que des personnes qui n'ont jamais manifesté d'attachement visible à l'Évangile et à l'Église trouvent normal d'avoir une cérémonie funèbre religieuse. Je pense que c'est parce qu'il y a le sentiment très profond que la destinée humaine n'est pas seulement animale, et terrestre. Et si aujourd'hui la croyance à la réincarnation se propage, c'est bien parce qu'il y a toujours le désir d'une vie après la vie. Et je suis frappé quand je vois des personnes notoirement incroyantes parler à des morts notoirement incroyants comme à des vivants lors des obsèques civiques. Les premiers chrétiens aussi se posaient des questions. Ils en ont vraisemblablement posé à l'apôtre Paul, puisque le passage que nous avons entendu ressemble à une réponse. Il faut dire que ces chrétiens, des débuts, avaient cru qu'ils ne mourraient pas, que le Christ allait revenir très vite avant leur mort. Et voilà, qu'il y avait eu des deuils parmi eux. Ils avaient de la peine à le comprendre et à l'accepter. Et il se demandait, ceux qui sont morts seront-ils privés de la joie du retour du Christ? Ceux qui sont morts, où sont-ils? Ceux qui sont morts, comment peuvent-ils avoir la vie éternelle? Et l'apôtre essaie de leur répondre, à leur angoisse et peut-être à notre angoisse. C'est un des très rares passages de la Bible où il est question de cela, car contrairement aux livres des autres religions, la Bible s'intéresse fort peu à ce qui se passe après la mort. Elle amorce des pistes, mais elle n'ose pas les poursuivre trop loin, parce que ce ne sont que des possibilités, des spéculations. La seule certitude qui traverse le Nouveau Testament, c'est que Jésus est ressuscité et que cela annonce une grande résurrection. Certains aspects de ces réponses sont durs, mais il faut aussi les entendre. Paul écrit « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Paul dit « Nous croyons ». Il ne dit pas « Nous savons ». Nous ne savons pas ce qui se passe après la mort. Nous ne savons pas s'il y aura une résurrection. Nous ne savons pas qui ressuscitera. Nous ne savons même pas si Jésus est ressuscité. Nous pouvons que croire. D'ailleurs, ceux qui ne croient pas ce que croient les chrétiens ne savent pas non plus. Ils croient qu'il y a autre chose ou ils croient qu'il n'y a rien. Ils ne savent pas. Ce qui donc nous est proposé, c'est de croire que Jésus est ressuscité et qu'il y aura une résurrection. Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, il est difficile de croire qu'il y aura une résurrection des morts. Et si nous ne croyons pas que Dieu a ouvert une brèche dans la mort en ressuscitant le Christ, et si nous ne croyons pas à la résurrection à venir, nous croyons que Dieu ne peut rien faire contre la mort. Nous croyons à l'éternité de la souffrance et de la mort. L'apôtre nous invite à choisir l'espérance en nous demandant de croire à la résurrection du Christ et à la résurrection à venir. Ce passage-là est le seul parmi tous les messages du monde à annoncer une parole, une mort de la mort. Il est le seul à proposer à chaque être humain et au monde un avenir qui ne soit pas barré par la mort. En dehors de cela, il n'y a que la résignation ou des réponses qui annoncent un perpétuel recommencement des souffrances et de la mort. Paul nous demande d'accepter cette espérance et il nous demande d'être logique. Dieu n'est pas le Dieu du passé, il est le Dieu du présent et de l'avenir. Il est vivant. Et si nous croyons que le Christ est ressuscité, croyons aussi que devant nous, il y a une résurrection. Dans ce passage, Paul parle des morts comme de ceux qui dorment. Vous noterez qu'il n'en dit pas plus. Il ne dit pas où ils sont, ni sous quelle forme. Là aussi, il ne sait pas. Sa foi lui fait dire qu'ils ne sont pas totalement détruits, mais qu'ils sont dans un moment intermédiaire, comme le sommeil est un moment intermédiaire entre deux moments d'activité, entre deux jours différents. Il ne faut sans doute pas chercher à en dire plus que l'apôtre, mais il faut bien dire maintenant que l'apôtre Paul ne parle pas ici de tous les morts, mais seulement de ceux qui sont mort en Christ, c'est-à-dire de ceux qui ont vécu unis au Christ. Ce sont ceux-là qui sont promis à la résurrection, ce sont ceux-là qui continuent d'être près du Christ, ceux qui ont vécu dans son intimité, ceux dont le Christ a transformé et habité la vie. D'autres textes du Nouveau Testament laissent entendre que ceux-là ont commencé la vie éternelle lorsqu'ils ont laissé le Christ prendre pied dans leur vie, qu'ils sont en cours de résurrection depuis ce moment-là et que la mort physique n'interrompt pas le cours de cette résurrection. Les autres, ceux qui ont écarté le Christ de leur vie, ceux qui ont refusé qu'il transforme leur vie, ceux qui n'ont pas cru en lui, Paul n'en parle pas. Pour eux, il ne parle ni de sommeil, ni de résurrection. Il y a là quelque chose de dur. Remarquez bien que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espérance pour eux. Paul répond ici à une question qu'on lui a posée au sujet de ceux qui avaient uni leur vie au Christ et qui sont morts, et il se garde de parler des autres. Il ne fait pas de spéculation générale sur la destinée humaine après la mort. Simplement, la logique de sa foi lui fait écrire que ceux qui ont commencé de vivre avec le Christ continuent de vivre avec lui et ressusciteront pour partager la vie éternelle avec lui. Pour cela, il n'a aucun doute, cela lui semble logique. Pour les autres, il n'en parle pas. Peut-être simplement parce qu'il n'en sait rien et parce qu'il ne veut pas se permettre de supposer quelle sera la décision de Dieu. D'autres passages du Nouveau Testament sont moins prudents. Les uns parlent de condamnation sous une forme ou sous une autre. D'autres passages laissent penser que Dieu accordera la vie éternelle à tous. Les chrétiens étant ceux qui auront eu le bonheur de commencer avec le Christ plutôt que les autres. Peut-être faut-il adopter la prudence de Paul et garder le silence à ce sujet, parce que Dieu seul sait ce qu'il doit faire. Voyez-vous, la prudence et la discrétion de Paul ont aussi une autre signification. S'il semble un peu ennuyé d'être obligé de faire une incursion dans l'au-delà et dans l'avenir, ce n'est pas parce que le sort des trépassés lui est indifférent, mais c'est parce que ces domaines-là ne dépendent pas de nous. Dans sa mentalité profondément biblique, Paul, comme Jésus, s'intéresse en priorité à ce qui est à notre portée. Et ce qui est à notre portée, c'est notre vie présente. Pour ceux qui sont partis, nous ne pouvons rien faire, rien changer, tout dépend de Dieu seul. Mais en ce qui concerne notre vie présente, là, nous pouvons toujours faire quelque chose. Nous avons toujours des décisions à prendre et la plus importante est celle de laisser le Christ nous sauver de ce qui nous aspire vers le bas, de ce qui nous avilit, de ce qui nous détruit. L'évangile de Jésus-Christ demande à chaque être humain s'il a envie de ressusciter, pas seulement de ressusciter dans l'avenir, mais de ressusciter maintenant, de commencer sa résurrection en laissant le Christ changer sa vie. L'évangile de Jésus-Christ nous demande si nous voulons laisser le Christ prendre toute sa place dans notre vie et laisser entrer avec lui l'espérance, la guérison, le pardon, l'amour et la vie nouvelle. Les questions sur l'au-delà ont leur importance, mais la question importante que nous pose le message du Christ concerne avant tout notre ici-bas. Et si Paul trouve important de dire qu'après la résurrection nous serons toujours avec le Seigneur, il estime tout aussi important d'écrire quelques lignes plus loin: Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, que soit que nous dormions, nous vivions unis à lui. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est que nous partagions la vie du Christ au cours de cette vie et dans l'éternité. Posséder déjà le salut, c'est faire l'expérience de la présence du Christ qui change la vie sans attendre l'au-delà. C'est dès maintenant que Dieu veut chasser le mal et la mort de nous. Et c'est pourquoi le message de Dieu, en nous demandant de faire confiance à Dieu pour ce qui est de l'avenir, nous demande de nous préoccuper surtout du présent et de laisser dès maintenant Dieu faire son œuvre de vie en nous. C'est ainsi que l'espérance la plus solide pour nous et pour ceux que nous aimons peut prendre racine et se développer en nous et nous rendre forts. Fleurir les tombes, comme beaucoup le font aujourd'hui, peut-être est-ce nécessaire, il est encore plus nécessaire pour nous de regarder vers le Christ.
C'était le message de vie.